Le mois dernier, on vous avait demandé qui vous voudriez voir dans les prochains portraits. Alors, vous nous avez fait plein de suggestions qu'on a décidé d'ignorer.
Voilà, non, c'était surtout pour que vous écriviez des commentaires, en fait, hein, parce que ça aide au référencement.
Voilà, donc si vous trouvez cette méthode honteuse, n'hésitez pas à le préciser en commentaire.
Bonne vidéo et activez la cloche.
Mesdames, Messieurs, bienvenue. Aujourd'hui, on va vous parler de Françoise Daubonne. Alors, son histoire va vous plaire si vous vous intéressez à l'écologie ou au féminisme, puisque cette militante et femme de lettres est une des pionnières de l'écoféminisme.
Ça, vous connaissez. Hein, vous connaissez au moins Sandrine Rousseau.
La candidate à la primaire des Verts, Sandrine Rousseau, amène dans le débat un sujet clivant, l'écoféminisme.
C'est ça, un mix entre Greenpeace et le MLF.
Bah, elle croit pas si bien dire, Charline Vanhoenacker, parce qu'aujourd'hui, on va vous parler du MLF, le mouvement de libération des femmes, et on va aussi se plonger dans l'ambiance foutraque des années 70.
Ah, c'est vrai qu'on parle souvent de mai 68 et des années 70 dans cette émission. Bah, vous allez voir que si Sandrine Rousseau vous fait peur, vous n'êtes pas prêt pour Françoise Daubonne ou pour les autres féministes de cette époque.
Nous sommes une sorte de contradiction interne dans la société. Comme les autres, nous naissons de la famille hétérosexuelle bourgeoise, avec son système d'éducation, les femmes élevées en vue de la procréation et les hommes pour être des mâles inséminateurs phallocrates.
Bon, c'est pas elle, Françoise Daubonne, hein, mais on voulait vous faire découvrir un peu le vocabulaire de cette époque.
Phallocrate. Phallocrate, c'est un machiste, hein, phallo comme phallus, et puis le phallus qui permet de gouverner, tout ça.
Voilà, ça c'est un mot qui a été inventé par Françoise Daubonne et on lui doit aussi le terme d'écoféminisme.
Exactement, donc vous l'avez deviné, aujourd'hui on va vous parler d'une pionnière, d'une figure atypique, même pour son époque.
Une femme qui a été résistante pendant la Seconde Guerre mondiale, qui a attaqué des fachos à coups de saucisson et qui s'est même essayée à l'écoterrorisme. Elle a posé une bombe sur le chantier d'une centrale nucléaire.
Née à Paris en 1920, Françoise Daubonne fait partie de la résistance, puis elle milite au Parti communiste avant de s'en éloigner par la suite. C'est après avoir lu Le Deuxième Sexe que cette féministe de la première heure écrira à Simone de Beauvoir « Nous sommes toutes vengées ».
Donc elle est née en 1920, ça veut dire qu'en 68, dans la période qu'on va traiter aujourd'hui, ça fait longtemps que c'est plus une étudiante.
Voilà, elle a peut-être 48 ans, mais ça va pas l'empêcher d'aller foutre le bordel dans la rue avec les autres.
Pour elle, faire la révolution est un travail à plein temps. Chaque jour apporte son lot de défilés, de nouvelles, de réunions, de meetings et de marches spontanées auxquelles Françoise participe en électrons libres. Elle fume à s'en noircir les poumons, boit du rhum et des gnôles étranges sortis des caves où elle se réfugie pour échapper aux charges des flics. Même si, souvent, son âge lui permet de passer entre les gouttes, ou plutôt les matraques, qui la prennent pour une passante et non une manifestante.
Alors ça vient de ce bouquin, L'Amazone verte, de la journaliste et féministe Élise Thiébaud.
Voilà, elle a écrit une sorte de roman de la vie de Françoise Daubonne, et ça se tient parce que, bon, Françoise Daubonne a vraiment eu une vie romanesque. Donc déjà, c'était une résistante et une communiste, mais elle venait d'une famille de la noblesse désargentée, les Pistons Daubonne. Malgré ça, elle a épousé toutes les causes de son temps. L'indépendance de l'Algérie, la cause des homosexuels, la lutte contre le système carcéral ou contre le nucléaire. Mais s'il y a bien un fil directeur dans cette vie qui est parti dans tous les sens, c'est que profondément, Françoise Daubonne était une libertaire. C'est ce que nous explique Élise Thiébaud, qu'on a interrogée.
C'est-à-dire avec une idée très élevée de, d'une société qui serait sans domination. Elle a été capable de le penser, alors que, bon, bah, en vrai, si on réfléchit bien, vous, moi, on n'est pas capable de penser ça.
L'œuvre de Françoise Daubonne est foisonnante. Il y a tout, des chansons, des poèmes, des romans, des essais et même de la science-fiction.
C'est d'ailleurs pour un de ces romans de science-fiction qu'on va la retrouver invitée sur le plateau de Pivot. Et ce roman s'appelle Les Bergères de l'Apocalypse. Ça raconte la guerre des sexes.
Boum ! La guerre des sexes au 21e siècle. Voilà. Les femmes se soulèvent et disent « Maintenant, il y en a assez, c'est même pas... » Prendre le pouvoir, ni réduire les hommes à néant, ni tout ça, c'est les supprimer. Parce qu'il n'y a rien d'autre à faire. Tant qu'on continuera comme ça, le monde va continuer de cette manière, ou plutôt va s'arrêter. Car là, ça c'est le petit côté écologique de mon livre. Les femmes, finalement, se révoltent moins encore à cause du tort qu'on leur a fait, qu'à cause du tort qui est fait à la nature, qui devient un tel crime, qui devient finalement la disparition de toute l'espèce, hommes et femmes. Alors elles disent, c'est une mathématicienne qui est à leur tête, dans ce cas-là, quand l'équation est insoluble, il faut supprimer la moitié du problème. Et elle supprime les hommes.
Voilà. Voilà. Carrément. Oh bah, oui.
Sans complexe.
Bah voilà. Ah bah voilà. Ah bah carrément. Bah bravo. C'est constructif de dire qu'il faut tuer tous les hommes. Hein.
Non, mais elle a écrit ça pour se défouler.
Une drôle de façon de se défouler, si tu veux mon avis.
Et quand elle parle, par exemple, chez Pivot, des Bergères de l'Apocalypse...
Je tiens bien à le dire, je dis que c'est modestement une épopée.
Délirante, vous ajoutez.
Délirante. Ouais. Et un écrivain doit savoir délirer. Je pense qu'en effet, j'ai déliré.
C'est super drôle parce qu'elle, elle est complètement dans son truc. C'est vraiment une enfant. Donc, elle est complètement dans son, dans ce qu'elle appelle une modeste épopée, ou un truc comme ça.
Votre guerre, là, c'est la faute. D'ailleurs, il y a une sorte d'oradour pour les hommes, à un moment.
C'est ça.
Tous les hommes sont mis dans l'église, et hop, on les mitraille tous.
Dans un ravissant petit village que je connais, voilà. Qui s'appelle Vernazza, qui est un de mes meilleurs souvenirs de vacances.
Elle dit que c'est un délire, et en fait, je pense qu'elle a écrit ces bergères pour se délivrer du poids de l'angoisse que lui causait le patriarcat. En fait.
Et alors là, il faut regarder sa vie pour comprendre cette angoisse du patriarcat. On ne naît pas féministe, on le devient. Et si la lecture de Simone de Beauvoir l'avait tant bouleversée, c'est que les mots de la philosophe résonnaient avec l'expérience concrète qu'avait eue Françoise d'Aubonne, l'expérience du mariage notamment.
J'étais très jeune, j'ai rencontré quelqu'un qui, pour la première fois, me marquait une attention qui m'avait paru flatteuse, attendrissante. J'ai laissé faire, comme quelqu'un qui est comme une toute jeune fille dans une période historique bouleversante et qui ne sait où s'accrocher, qui ne sait que devenir et qui crève de faim, qui crève de tous les besoins inassouvis. Tout de suite, s'est déclaré un enfant. Tout de suite, je me suis rendu compte de l'homme que c'était. Il est mort paix à ses cendres. Je n'en dirai donc rien. J'en ai suffisamment parlé dans mes mémoires.
Cet homme qu'elle a donc dû épouser pendant la guerre, elle va le quitter très vite. Elle ne veut pas de mari et elle refusera toute sa vie de s'enfermer dans une relation stable et exclusive.
Elle aura quand même 2 enfants, mais elle ne s'occupera pas vraiment d'eux. Elle va déléguer le travail de soins et d'éducation à sa sœur, notamment. Elle vit sa vie comme un homme, c'est-à-dire pour elle seule. Elle vit pour son œuvre, pour ses combats politiques, pour son plaisir.
Elle dira plus tard que finalement, pour ses enfants, elle aura été un très bon père.
Bon, ça veut pas dire que pour avoir une vie intéressante, il faut forcément négliger ses enfants, on vous dit pas ça pour ça, on vous dit ça pour dire à quel point, pour une femme de son époque, elle a eu une vie hors norme.
Et nous avons d'ailleurs contacté un de ses petits-enfants pour nous parler d'elle. Restez avec nous parce que vous l'avez sans doute déjà vu, y compris dans un de nos portraits pour Blast. Avant la fin de l'émission, il viendra s'asseoir sur cette chaise.
Non mais ça devient Bataille et Fontaine, notre truc.
Non mais si on parle de ses enfants, c'est pas non plus gratuit. La question de la procréation, de la maternité, elle est évidemment centrale dans la vie de Françoise d'Aubonne, qui va évidemment défendre le droit à l'avortement et à la contraception.
Vous comprenez bien que pour les féministes, et particulièrement avant la légalisation de l'IVG, la loi Veil en 75, la question du corps des femmes, c'est avant tout la question du ventre des femmes. Ça faisait un siècle, à ce moment-là, que l'État avait mis en place des politiques natalistes. Pétain avait par exemple recriminalisé l'avortement. Après la guerre de 1870, il y avait aussi eu un tour de vis sur les droits reproductifs. Pareil après la guerre de 14-18.
Entre chaque conflit, il faut faire en sorte que les femmes produisent du vivant et ne privent pas la patrie de ses futurs soldats, qu'elles ne privent pas non plus le capital de sa future force de travail. En mai 68, la guerre, ça commence déjà un peu à dater et le mouvement des femmes pour l'avortement et la contraception peut regagner en puissance.
68, la sexualité descend dans la rue et s'inscrit sur les murs. 1970, naissance du mouvement de libération des femmes. 1971, un manifeste circule, le Nouvel Observateur le publie. 343 femmes s'accusent du délit d'avortement, on les appelle les 343 salopes, de nombreuses personnalités parmi elles.
Parmi elles, évidemment, il y a Françoise d'Aubonne, hein, on vous l'a dit, c'est une militante au MLF depuis les débuts du mouvement.
Le mouvement est né à la fois à Paris et en province, où il y a des groupes qui sont apparus au moment où commençait le groupe de Paris, sans se connaître entre elles. Ce qui prouve que justement ce parti est historiquement fondé, puisque des femmes qui ne se connaissaient pas entre elles ont eu les mêmes idées, ont eu les mêmes avis, alors que très souvent elles venaient même des milieux sociaux différents, n'avaient ni les mêmes lectures, ni même les mêmes opinions politiques, et qu'elles se sont regroupées aux alentours des années 69-70 en disant quand même, ça ne peut pas durer une chose pareille. Cette oppression, cette situation est impensable.
C'est venu de soi-même. Quelle oppression! Mais
Madame
quelle
Renier,
oppression!
Je l'ai vécu
Madame
suffisamment pour en parler.
Mais non, c'est pas vrai, si vous parlez de
la parole.
Et c'est au sein du MLF que Françoise d'Aubonne va animer un groupe écologie et féminisme. Un groupe dans lequel elle va pouvoir développer sa pensée
écoféministe. Alors ça veut dire quoi pour elle à ce moment-là, écoféminisme?
Bon, rassurez-vous, on n'est pas dans la terre-mère, Gaïa, le féminin sacré, etc. D'Aubonne, c'est une marxiste, elle a milité au PCF, donc elle va proposer une analyse matérialiste et historique du patriarcat.
Le capitalisme n'est pour elle que le stade ultime du patriarcat. Elle historicise ce qu'elle appelle donc la phallocratie, qui pour elle n'a pas toujours existé. Pour le démontrer, elle se passionne pour les civilisations antiques ou lointaines, elle s'intéresse aussi bien au peuple celte qu'à la période du néolithique. Elle postule que les femmes ont connu des sociétés sans patriarcat, et que puisqu'il n'a pas toujours existé, il n'est pas impossible de penser sa disparition.
Et le système capitaliste, pour elle, est porteur de la destruction du vivant, de la nature, et en ce sens, en fait, ce qu'elle dit, c'est très proche de ce que dit aujourd'hui Sandrine Rousseau. Hein. Il y a une logique commune entre le patriarcat et le capitalisme.
Et donc, pour combattre ça, il faut jouer sur les deux tableaux, l'écologie et le féminisme, d'où le nom, l'écoféminisme.
L'idée, c'est de remettre en cause cette espèce de triptyque qui est au fondement de notre société actuellement, qui est de prendre, utiliser, jeter. On fait ça pour la nature, on prend, on utilise, on jette. On fait ça aussi finalement pour le corps des femmes et puis pour plein d'autres personnes dans la société qui sont précaires, vulnérables. On prend, on utilise, on jette. Et c'est exactement ça qu'il faut que l'on renverse, que l'on modifie pour respecter, au contraire, et coopérer, co-construire.
Et pour coopérer et co-construire, il va falloir mobiliser des valeurs dites féminines. C'est une intuition qu'avait déjà Françoise d'Aubonne en 1972.
Les valeurs du féminin, si longtemps bafouées, puisqu'attribuées au sexe inférieur, demeurent les dernières chances de survivance de l'homme lui-même. Mais il faudrait faire très vite. Encore plus que de révolution, nous avons besoin de mutations.
Mais revenons au contexte. On vous a parlé des mouvements féministes de cette époque, mais les années 70, c'est aussi le moment de la prise de conscience écolo.
On a déjà évoqué dans cette émission le rapport du Club de Rome qui sort en 72, le rapport Meadows sur les limites de la croissance.
Souvenez-vous, ça c'était dans la vidéo sur René Dumont. Et René Dumont, lui, il critiquait le rapport du Club de Rome, comme je vous l'expliquais dans cet extrait de Moi du passé avec moins de barbe. Parce que selon Dumont, ce petit club de notables-là, il va pas assez loin.
Il ne désigne pas les responsables de cette situation. Le pouvoir des privilégiés qui maintient le système de profit. Il leur aurait fallu pour cela renier le milieu dont ils sont issus.
Eh ben pour Françoise, René aussi ferait bien de renier le système dont il est issu, le patriarcat.
Parce qu'elle, elle voit pas comment on peut produire une critique radicale du capitalisme sans placer la question du patriarcat au cœur de l'analyse objective et historique du mode de production capitaliste. D'ailleurs, si René Dumont avait publié en 73 « L'utopie ou la mort », elle va lui répondre l'année suivante en publiant « Le féminisme ou la mort ».
Le féminisme, c'est l'humanité tout entière en crise. Et c'est la mue de l'espèce. C'est véritablement le monde qui va changer de base. Et beaucoup plus encore. Il ne reste pas le choix. Si le monde refuse cette mutation, il est condamné à mort. Non seulement par la destruction de l'environnement, mais par la surpopulation, dont le processus passe directement par la gestion de nos corps, confié au système mâle.
Et René Dumont, pour conjurer la catastrophe écologique, il avait une obsession, c'était de lutter contre la surpopulation. Et de lutter contre la surpopulation avant tout dans les pays développés.
Ah bah oui, parce que c'est surtout notre surconsommation qui ruine la planète, le climat, donc c'est à nous en priorité d'arrêter de se reproduire comme des lapins.
Puisqu'il est urgent de faire moins d'enfants, c'est donc les femmes qui ont un rôle historique dans ce processus. Alors évidemment, la contraception, l'avortement et la liberté des femmes à disposer de leur corps, ça joue un rôle crucial.
Voilà, là-dessus Dumont, il est d'accord, hein, mais Françoise d'Aubonne, elle propose même d'aller plus loin.
Et elle publie en 1974 dans Charlie Hebdo un appel co-signé par d'autres membres de son courant écoféministe du MLF dans lequel elle déclare
« Notre décision, à titre de premier avertissement, de proclamer et organiser une grève de la maternité d'un an pour celles de nos signataires qui sont en condition de procréer. Notre espèce n'a d'avenir qu'au prix du triomphe de notre liberté et de nos valeurs méprisées par la civilisation mâle, par le stoppage de la démographie, la limitation du travail producteur d'inutilité, le reboisement maximal, la destruction des centrales nucléaires et de toute industrie de guerre et surtout l'abolition totale et irréversible du sexisme et du patriarcat. »
Vous l'avez compris, hein, la révolution sexuelle des années 70, ça n'est pas la révolution individualiste et frivole que les réacs nous présentent aujourd'hui.
Il y a un but politique. En luttant pour une sexualité non reproductive, les militants de cette époque luttent aussi pour la planète, contre le capitalisme ou encore contre la guerre.
Et donc, si on tire le fil de ce raisonnement, pour Françoise d'Aubonne, les alliés naturels des féministes, ce sont les homosexuels. Leur sexualité non reproductive n'est pas seulement un fléau social, elle est révolutionnaire.
C'est forcément révolutionnaire, dans le sens où ça remet en cause complètement les valeurs morales bourgeoises qui sont le fondement de la société, c'est-à-dire la famille, la production des enfants à la chaîne, etc. etc. C'est tout un processus, et être homosexuel, c'est forcément révolutionnaire.
Et alors la cause homosexuelle, Françoise d'Aubonne, ça la passionne. Elle a par exemple participé à la fondation du FAR, le Front Homosexuel d'Action Révolutionnaire.
Et elle n'était pas la seule. Les féministes du MLF seront nombreuses à accompagner comme ça les premières actions du mouvement homosexuel des années 70. C'est ce que nous a expliqué Antoine Idier, maître de conférence en sciences politiques, spécialiste de ces questions.
Cette solidarité qu'incarne Aubonne entre féminisme et homosexualité, c'est pas seulement elle qui l'incarne, mais c'est aussi un trait caractéristique de la naissance même du mouvement homosexuel. Mais effectivement, Aubonne a toujours insisté sur cette solidarité entre hommes homosexuels et femmes, femmes homosexuelles, femmes lesbiennes, mais aussi femmes hétérosexuelles comme Aubonne l'était, dans le sens où tous étaient attachés à détruire un certain nombre de rôles sexuels, à détruire une société où une certaine conception masculine contribue tant à produire la domination des femmes que la domination des homosexuels et des lesbiennes.
Mais à l'époque du phare, Françoise avait une phrase qui pouvait très bien résumer l'esprit de l'époque. C'est quand on lui disait qu'il fallait intégrer les homosexuels, elle répondait non, c'était aux homosexuels de désintégrer la société.
Et alors cette solidarité, elle a pris des formes très concrètes. On va vous raconter deux actions spectaculaires et efficaces menées par Françoise Daubonne et ses camarades. En 1971, déjà, il y a cette affaire de saucisson. Alors, c'est un meeting, il y a la mutualité, il y a le professeur Lejeune qui doit parler. Le professeur Lejeune, c'est un chercheur très catho-tradit qui est devenu, en quelques années, le fer de lance de la lutte anti-avortement. Daubonne, ses camarades féministes et d'autres camarades qui fonderont plus tard le phare ont décidé de bordéliser ce meeting.
Françoise avait dit à ses copines, il ne faut pas prendre des bâtons parce que là, ça tombe sous le coup de la loi, ce sont des armes. Il faut prendre des saucissons secs parce que ça fait aussi mal.
Et donc, on était tout arrivés avec un saucisson.
C'était tellement drôle que même les gens qui étaient opposés à ça ont commencé à rigoler parce que c'était voir toutes ces bonnes femmes avec des saucissons et elles criaient « Laissez-les avorter, laissez-les avorter !» Elles tapaient sur les flics avec des saucissons. Ça, c'était vraiment...
Alors là, c'est sûr, c'est raconté de façon rigolote, mais à votre avis, c'était qui faisait le service d'ordre dans ce genre de meeting? Eh ben, c'était des militants d'extrême droite, ceux d'ordre nouveau, voilà, des copains d'Alain Madelin.
Donc ça vous donne peut-être une idée du courage physique de ces militantes et militants. Hein. Il s'agissait d'aller directement au contact, à la bagarre avec les fachos, et donc avec les flics qui accouraient pour les protéger.
Bien sûr, hein, et attaquer les fachos à coups de saucisson, c'est le monde à l'envers, vous en conviendrez.
Mais ce n'est évidemment qu'un des coups d'éclat de Françoise Daubonne, il y en a eu bien d'autres. En 72, elle décide de s'inviter, toujours avec ses camarades, à un congrès de psychiatrie en Italie, à San Remo. Le thème de ce congrès, c'était le traitement de l'homosexualité.
Alors vous imaginez comment on traitait l'homosexualité à l'époque? On parle de thérapie de conversion avec des électrochocs et des lobotomies.
Le problème, c'est que ce congrès de San Remo, c'est un congrès médical. Les militants vont donc devoir se faire passer pour des médecins pour pouvoir rentrer. Ils vont le faire, et ça va marcher.
Quand ils ont dit on déclare ouvert le premier congrès, nous nous sommes levés en disant non, ici on n'ouvre rien. C'est à nous à parler d'homosexualité. Elle a pris le microphone et dit moi je suis Françoise Daubonne.
Parler donc de l'homosexualité. Interdire l'homosexualité, ça veut dire quoi? Interdire la sexualité non reproductrice, quoi. C'était réprimé tout simplement, quoi.
Mais ce n'est pas l'action la plus spectaculaire à laquelle est participée Françoise Daubonne. Son écoféminisme s'inscrit dans une perspective décroissante. Il s'oppose donc à la croissance de la population, à la croissance de la consommation et donc à la croissance de la production.
En 1985, l'on envisage déjà, grâce à la seule énergie nucléaire, une production de 400 milliards de kilowattheures. C'est dire que pour faire face à un tel accroissement des besoins, l'EDF se doit de mettre en service autant de moyens de production qu'il en existait il y a 10 ans. À cette époque déjà, la France avait été une des premières nations à produire de l'électricité d'origine nucléaire et une des premières nation a constaté la compétitivité du nucléaire. Et c'est bien cette notion de compétitivité qui fut déterminante dans le choix de l'Alsace au cœur du marché commun pour la construction de cette nouvelle centrale nucléaire.
Bon, vous, aujourd'hui, si vous vouliez vous opposer à la construction d'une centrale nucléaire, vous feriez quoi? Vous feriez une occupation pacifique, une ZAD, une manif?
Aujourd'hui, ils jettent de la soupe et de la purée, d'ailleurs, sur les tableaux, là où même ils se collent aux tableaux de maître dans les musées.
Oui, j'ai vu ça. Et donc, à l'époque, ils avaient un autre rapport à la violence. Les militants de gauche envisageaient la lutte armée un petit peu partout, en Allemagne, en France, en Italie, au Japon. Et donc, face à la violence du système, Françoise Daubonne est de ceux qui pensent que, il faut une contre-violence.
Du terrorisme.
Une contre-violence, elle dit.
La contre-violence non véritable de ce qu'on appelle le terrorisme semble très indiquée comme retournement de l'arme de l'ennemi contre lui-même. Il va de soi que les attentats devraient être considérablement améliorés, ne visant que des points de rupture précis du front ennemi, économisant au maximum les vies humaines des personnes non concernées, n'employant la prise d'otage qu'à bon escient.
Oh là là, stop, on va s'arrêter là, on veut pas de problème, hein, c'est bon, je crois que vous avez compris.
Voilà, donc du coup, elle, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a posé une bombe sur le chantier de Fessenheim.
Alors, ce qu'elle écrit dans ses mémoires, c'est Fessenheim, un jour, 5 mai 1975.
Ce fut le sommet de ma vie, mais je n'ai pas envie d'en parler.
Eh ben, elle s'est pas fait gauler.
Non, c'est fou, hein.
Et si, pour parler de Fessenheim, on accueillait maintenant son petit-fils, qu'on vous a teasé au début avec la chaise?
Attention, il arrive, il va s'asseoir sur cette chaise, vous allez le reconnaître.
Ah bah voilà, c'est mieux. Attends, je me recoiffe, c'est pour Françoise.
Ah bah c'est encore David Dufresne, c'est lui le petit-fils mystère.
C'est fou, hein, on a trouvé ça dans le bouquin d'Élise Thiébaud, où elle raconte une anecdote où David était tout bébé.
Françoise Daubonne arrive à la maternité, elle prend un bébé dans ses bras, c'est-à-dire c'est moi, elle le lève, Elle regarde pas ma mère, elle dit pas bonjour à ma mère, elle lève le bébé et elle dit « Bon sang, ne saurait mentir ». Et elle repose le bébé et elle se barre.
Et ce qui est bien avec David, c'est que bah, lui, il est allé voir dans les archives de la police ce qu'ils avaient sur sa grand-mère.
Sa grand-mère, la poseuse de bombes, hein, quand même.
Et là, c'est quand même assez étonnant parce que la réaction sur le moment est assez dure. Hein. Là, on s'en prend à l'indépendance énergétique de la France. Donc, c'est pas rien, si tu veux. Et là, c'est assez rigolo parce que on voit que les flics dans les archives sont dans les choux, ils sont pas là, quoi. Et ça, je trouve que sur les années 70, ça dit aussi beaucoup de choses. C'est-à-dire que y a pas de fichiers comme aujourd'hui. Il n'y a pas de fichier numérique. Et donc il faut faire appel à la mémoire humaine, tu vois. Je pense que c'était pas mal d'être militant dans ces années-là, si tu veux. Un peu plus simple.
Bon, militer, c'était peut-être plus facile avant, mais enfin, c'était quand même plus violent. Et cette justification de la violence et des attentats, c'est peut-être ça aussi qui fait qu'elle n'est pas tant citée que ça aujourd'hui, Françoise Daubonne, même chez ses héritiers et surtout ses héritières politiques.
Et pourtant, maintenant, entre MeToo et les conséquences de plus en plus visibles du dérèglement climatique, l'écoféminisme s'apparaît pertinent, surtout pour la jeune génération. Et c'est ça qui explique pourquoi Sandrine Rousseau a fait quasiment jeu égal avec Yannick Jadot à la primaire des écolos.
C'est en France qu'il y a, depuis quelques mois ou quelques années, un essor dont on ne trouve pas l'équivalent, dans les autres pays européens. Enfin, c'est arrivé ces derniers temps plusieurs fois que des journalistes suédois ou belges ou suisses ou allemands me disent « Mais qu'est-ce qui se passe en France autour de l'écoféminisme ? C'est pas du tout comme ça chez nous. »
Mais dans les années 80-90, c'est la version libérale du féminisme qui a triomphé. Dans les pays occidentaux, on ne parle plus trop d'avortement, on parle de plafond de verre, on parle du salaire des femmes et plus de leur ventre. La révolution sexuelle a quant à elle été récupérée par le capitalisme et le militantisme des années 70 s'est institutionnalisé quand il n'a pas été ringardisé.
La catastrophe climatique, elle, était prévue, mais pour dans longtemps, c'était lointain, c'était vague. L'heure était à l'optimisme et pas aux prophéties crépusculaires de René Dumont ou de Françoise Daubonne.
Maintenant, on se rapproche beaucoup plus de ce qu'elle décrivait comme étant un futur probable. Mais à l'époque, elle faisait un peu flipper tout le monde. Et puis, elle n'était pas non plus, elle ne correspondait pas aux normes attendues.
Non, alors c'est ça qui est rigolo, c'est que Françoise Daubonne, elle va être oubliée. Il y aura du monde à son enterrement en 2005, il y aura du monde. Le PC va offrir une gerbe de fleurs assez conséquente. Il y a du monde, mais c'est les amis, c'est les copains, c'est les vieux militants, etc. En fait, elle est complètement dans l'oubli. Elle sort des livres chez des tout petits éditeurs et elle en vend quelques exemplaires. Elle va être oubliée. Et là, elle est ressortie. Avec un mot, un concept, écoféminisme.
Son concept est de retour, mais est-ce que ça veut dire que tout le monde va se mettre à se réclamer de Françoise Daubonne ?
Eh bien, ça va être compliqué, et pas seulement à cause du terrorisme.
Françoise Daubonne, elle est née en 1920, elle a écrit toute sa vie et elle a aussi écrit des conneries.
Sur les questions raciales, par exemple, bon, il y a des choses à dire. Hein. Écoutez ce qu'en ont écrit les deux chercheuses qui ont préfacé la nouvelle édition de son ouvrage « Le féminisme ou la mort ».
Il est pour le moins étrange que Françoise Daubonne n'ait jamais mis au centre de ses analyses la colonisation comme matrice du pouvoir mâle, qu'elle s'applique pourtant à critiquer de part en part dans nombre de ses œuvres. C'est la faiblesse du livre qui finit par adopter des tropes racistes, de l'utilisation du terme bico à la tendance misérabiliste qui teinte chaque évocation des femmes africaines. Et c'est pas tout. Dans ses mémoires, il y a un passage où elle décrit une femme noire en utilisant un terme raciste. Elle ira même jusqu'à imiter un accent africain à l'écrit, comme si on était dans Astérix.
C'est d'ailleurs plutôt surprenant pour une femme qui s'est engagée contre la colonisation, qui a même quitté le PCF parce qu'elle trouvait que le PCF n'était pas assez franc dans son soutien à l'indépendance de l'Algérie.
Donc ça, c'est évidemment une limite à sa réappropriation par les jeunes militantes pour qui la question antiraciste est loin d'être secondaire.
Françoise Daubonne n'est pas la féministe idéale. Ça n'est pas un modèle non plus. Elle est décédée il y a plus de 15 ans et on ne sait pas comment elle se serait positionnée dans les débats qui traversent aujourd'hui le monde militant. À ce sujet, Élise Thiébaud écrit
« J'aime à croire qu'elle aurait été inclusive, queer, intersectionnelle, quitte à se contredire et à prendre des coups. Elle aurait été avec les personnes trans, les prostituées dans leur choix et leur diversité. » Elle aurait parlé des règles, adopté et utilisé n'importe comment le point médian. Enfin, on ne va pas se mentir, je pense qu'elle aurait aussi pu prendre un parti inverse, sur l'islamophobie et les femmes voilées, par exemple, comme de nombreuses féministes de sa génération et de son milieu social. Elle pourrait aussi voir le féminisme des femmes musulmanes ou noires comme un complot phallocrate
ou même une forme de régression qui nous ralentit.
Bon, peu importe ce qu'elle aurait pensé des débats qui nous agitent aujourd'hui, toujours est-il qu'elle a eu une vie hors norme, et encore, on vous a pas tout raconté. On vous a pas raconté quand elle a demandé à se marier avec un tolard parce qu'on lui refusait l'accès au parloir.
Elle a fréquenté Sartre, Foucault, Guy Hockenheim.
Si vous voulez en savoir plus, bien sûr, il y a le bouquin d'Élise Thiébaud dont on vous parlait tout à l'heure, et puis bon, il y a ses mémoires, mais alors là, c'est un peu plus touffu, c'est un peu plus difficile d'accès, quoi.
Mais c'est intéressant de redécouvrir ces années-là et tout ce qui s'est passé, notamment les happenings, parce qu'il y a quand même tout un héritage qui s'est transmis.
Ce n'est pas Françoise Daubonne qui a inventé le happening, mais c'était clairement son arme privilégiée, et ça a été celle du MLF et du phare. Ça a aussi été celle d'Act Up pendant les premières années de l'épidémie de sida, et on retrouve l'esprit festif et foutraque de Françoise Daubonne dans les actions que mène aujourd'hui le collectif Ibiza, par exemple.
De nos jours, les militants de gauche ont pour l'essentiel renoncé à la violence. Mais on est en train de redécouvrir l'impact que peuvent avoir des actions spectaculaires, comme l'interruption du congrès des psychiatres à San Remo en 72.
Puis c'est intéressant de se rappeler de tout ça, parce que ça nous montre qu'on a fait des choses en France. Il n'y a pas besoin forcément de regarder ce qu'ont fait les mouvements minoritaires, notamment aux États-Unis. On a un patrimoine chez nous. Par contre, il y a peut-être une transmission qui ne s'est pas faite.
L'héritage du phare est au fond assez faible. Le phare est assez peu connu dans l'histoire homosexuelle, dans l'histoire LGBT. On pense plus à Stonewall et aux États-Unis qu'au phare, ce qui s'explique assez bien par en fait l'absence de transmission de l'histoire LGBT, que ce soit à l'école, dans les musées, dans les institutions culturelles, etc. Et du coup, comme il y a une absence globale, générale de cette histoire, il y a aussi du coup une absence de la place de Françoise Daubonne dans cette histoire.
Et voilà, puis redécouvrir tout ça, c'est une super réponse aux réacs qui nous emmerdent là avec l'américanisation du débat public. Mais attendez, on avait du super wokisme chez nous dans les années 70.
Chez Françoise Daubonne, en plus, il y a des fulgurances quand même. Parce que théoriser l'écoféminisme dans les années 70, ça a quand même quelque chose de visionnaire. Ce serait dommage de s'en passer.
On vous dit pas de tout lire et encore moins de tout ingurgiter sans esprit critique. Mais savoir ce qu'ont fait ceux qui nous ont précédés, c'est important, surtout quand on parle de combats victorieux. Le droit à l'avortement, la contraception, la dépénalisation de l'homosexualité, c'est cette génération qui a obtenu tout ça. Et reparler aujourd'hui de Françoise Daubonne, c'est aussi reparler de ses victoires. Et si ces méthodes ont marché à l'époque, peut-être qu'elles pourraient remarcher aujourd'hui. Que vous soyez une écoféministe poseuse de bombes ou un mâle hétéroflic inséminateur phallocrate, n'hésitez pas à vous abonner à Blast et à donner des thunes, s'il vous plaît.
Voilà, des sous pour faire vivre aussi cette culture et redécouvrir cette culture dont on vous a parlé aujourd'hui. Il y a ça et plein d'autres choses. Le souffle de Blast ne s'arrête jamais. Rendez-vous le mois prochain
pour un nouveau portrait.